Bonjour et bienvenue à tous à En revenant de l'Expo. C'est une nouvelle émission sur Radio FM+, où vous avez entendu le premier épisode la semaine dernière, qui était consacré au musée Fabre, à tout seigneur, tout honneur. Aujourd'hui, je vous propose une émission de filles, rien que de filles, même la musique, mais vous en saurez plus dans quelques instants. Voilà, donc je vous propose de rencontrer deux jeunes femmes. L'une est plasticienne, l'autre est chargée de communication, attachée de presse. L'une vient de nous parler de son travail et l'autre vient nous parler de Solidart. L'une s'appelle Joy Hanoun Lay, et pas Lay, même s'il y a un Y à la fin. Bonjour.
Bonjour.
Et l'autre, eh bien, s'appelle Fanny Bessière, et elle va représenter Solidart aujourd'hui, puisque Solidart, c'est ce week-end. Donc, c'était vraiment la dernière minute pour en parler. Merci à Yann, qui lui va assurer la technique de cette émission, et bienvenue à toutes les deux. On commence par Joy, un premier petit quart d'heure passé avec Joy, qui va nous parler de son travail. Alors, vous exposez en ce moment, Joy, rue des Multipliants, au cœur de l'Écusson. C'est un petit bar, le Tic Tac. Et c'est un petit bar comme seul Montpellier en a le secret. C'est-à-dire, c'est un petit lieu sympathique, avec beaucoup de gens qui passent, très différents les uns des autres. C'est tout petit. Mais malgré tout, votre exposition, elle tient bien sa place. Votre histoire d'amour avec les pinceaux, avec les crayons, avec le papier, commence il y a déjà quelques années. J'allais dire même quand vous étiez toute petite, puisque... Tu es une petite fille, je ne sais pas si vous étiez sage, mais en tout cas, vous étiez un peu réservée. Et les couleurs, les crayons et le papier ont tenu une grande place dans votre enfance.
Oui, absolument. Ben oui, quand j'étais petite, je dessinais tout le temps. C'était un peu un refuge. Je pouvais créer mon monde imaginaire et c'est vrai que ça ne m'a pas quittée.
Voilà, c'est une sorte d'écriture en fait.
Tout à fait, c'est une sorte d'écriture.
C'était un refuge, c'était un moment, des moments dans lesquels vous vous sentiez bien, un petit peu à l'écart peut-être des autres. Cela dit, dès le lycée quand même, vous vous orientez vers les arts plastiques. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au lycée? À un moment donné, il faut choisir une orientation, vous auriez pu être médecin, infirmière, non. C'était vraiment ce qui vous plaisait, c'était de dessiner ou d'aller en tout cas vers des métiers de l'imaginaire.
Et... Oui, ben, j'ai quand même eu mon bac grâce à l'art plastique et à la musique, hein. Heureusement. J'aurais pas pu faire médecine, ça c'est sûr.
Pourtant, Joy Hanoun Lay, c'était bien comme nom de médecin. Donc, vous passez votre bac, vous intégrez une école. Mm-hmm. Donc, vous m'aviez parlé, quand on avait préparé l'émission, d'une MANA. Donc, vous nous expliquez ce que c'est?
Une mise à niveau en art appliqué. Donc, c'est après le lycée, quand on a fait une filière générale, même avec l'option art plastique. On fait une année de mise à niveau en art appliqué, où on découvre un peu tous les métiers des arts appliqués. Et ce qui nous permet un peu de voir vers où on veut s'orienter.
D'accord, c'est une sorte de éventail des possibilités que donnent les métiers liés effectivement aux arts plastiques.
Oui, tout à fait. Donc moi j'avais fait cette MANA, mise à niveau en art appliqué, au lycée Jean Monnet à Montpellier, voilà, après mon bac.
Qui existe toujours d'ailleurs cette MANA?
Il me semble, oui.
D'accord, donc c'est bon à savoir pour les parents dont les enfants voudraient aller vers les arts plastiques. Il y a des choses à faire dans ces métiers-là. Cela dit, vous partez à Lyon?
Oui, je pars à Lyon et je fais d'abord une première année de BTS communication visuelle à Montpellier. Et je valide mon année, mais je finis pas mon BTS et je pars entamer des études d'illustration à l'école Émile Cole à Lyon. Donc il y a trois filières là-bas, l'édition, l'animation et le multimédia. Moi, j'avais choisi l'édition.
D'accord. Alors pourquoi l'édition? Parce qu'effectivement, vous étiez plus en rapport justement avec le papier, le crayon, les couleurs.
Oui, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de peindre, de dessiner. J'étais plutôt dans le matériel plutôt que sur l'ordinateur. C'était, voilà, j'avais plutôt un rapport au papier plutôt qu'à l'écran.
Oui, qu'au virtuel, d'une certaine façon. Cela dit, vous avez fait plein de choses hein, dans ce domaine-là. Vous avez été illustratrice, vous avez fait une formation aussi de peintre en décor à un moment donné. Oui. Alors là, on n'est plus à Lyon, on change de région carrément.
Oui, ben, je sors de l'école Émile Cole à Lyon en 2010, diplômée, et je vais m'installer à Toulouse. Et peu de temps après, je commence une formation de peintre en décor. Et donc, c'est là que j'apprends, entre autres, la technique de réalisation de faux marbre, qui m'a beaucoup inspirée.
On y reviendra, effectivement, parce que ça, quand on voit votre travail, on sent qu'il y a ça, en tout cas, que c'est un support pour exprimer ce que vous voulez exprimer. Cela dit, vous développez un travail personnel, alors de recherche personnelle, c'est-à-dire un petit peu parallèlement à ce que vous faites par ailleurs. Et c'est là que, j'allais dire, les choses commencent à devenir prégnante pour vous, puisque ce travail, vous ne l'avez jamais cessé, jamais arrêté, et qu'aujourd'hui encore, vous continuez à rechercher. Vous avez commencé, je crois, par le figuratif, et donc vous êtes quand même une bonne dessinatrice. Hein. Vous n'êtes pas arrivée comme ça en mettant des taches de couleur sur une toile, il y a quand même derrière une vraie dessinatrice.
Oui, à la base, j'ai quand même une formation, on va dire, académique, où j'ai appris le dessin au fil à plomb, au fusain, à l'ancienne. Et j'ai une très bonne éducation, j'ai eu un très bon apprentissage à l'école Émile Kohl sur ce point. Mais j'ai eu envie, le besoin, en fait, de m'en détacher et d'aller chercher du côté de l'abstraction. Donc, des choses que j'avais pas appris dans mon cursus, que j'ai appris par moi-même.
Alors, on va peut-être dire que le dessin, pour vous, était un peu trop contraint. C'est une technique en fait, hein, mais que vous avez eu à un moment besoin d'aller au-delà de ça, de libérer peut-être le trait.
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, je trouve que à un moment donné, c'est comme si le figuratif ne me suffisait plus pour exprimer mon ressenti en fait. Du coup, l'abstraction, elle est devenue pour moi, je vais dire un gros mot, mais enfin, c'est pas un gros mot, presque un besoin de transcendance, quoi, une recherche presque métaphysique. Et c'est devenu pour moi une exploration entre le lien entre le soi, notre part animale et le cosmos. Et j'avais la volonté d'exprimer une vérité enfouie au plus profond de moi-même. Et c'est en ça aussi, je suis fortement influencée par l'abstraction lyrique.
Alors, vous allez nous expliquer, parce qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus particulier. Qu'est-ce que c'est un mouvement, l'abstraction lyrique?
Oui, c'est un mouvement qui a commencé en 1945, qui était très fort de 45 à 70 et qui a fortement influencé les artistes jusqu'à aujourd'hui encore. Hein. Beaucoup d'artistes se revendiquent de l'abstraction lyrique aujourd'hui.
Et qui se présente comment, alors, cette abstraction lyrique? Comment la distingue d'autres types d'abstraction?
C'est une recherche, on va dire, sur la forme, le geste, la couleur, mais aussi une exploration du lien quant à la musique.
Alors la musique, on en parle tout de suite, parce que vous avez choisi les morceaux qui vont venir tout à l'heure, vous les présenterez, parce qu'ils sont particuliers, c'est pas des choses qu'on entend tous les jours. Mais vous êtes dans une famille où on chante énormément, voilà, la musique est présente sous diverses formes, hein, parce que vous n'aimez pas forcément ce que vos parents aiment, ce que vos amis aiment, etc. Mais la musique est quand même une source d'inspiration pour vous.
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance quand même qu'on m'ait inscrit à une école de musique très tôt. Donc j'ai appris à lire le solfège en même temps que j'ai appris à lire. Donc je pense que ça m'a vraiment donné des bases solides en fait pour comprendre et apprécier la musique. Quoi qu'on n'ait pas besoin forcément de ça, mais je suis quand même reconnaissante. Et j'ai des grands souvenirs de musique dans mon enfance, à travers cette éducation musicale où j'ai découvert la musique classique et le jazz. Mais aussi, j'ai un grand souvenir quand j'étais petite d'un dessin animé qui était Fantasia, où on voyait un chef d'orchestre nous expliquer que la musique pouvait avoir des couleurs, pouvait raconter des histoires et nous montrer des illustrations abstraites de cette musique et aussi raconter des histoires figuratives. Donc ça m'a vraiment, vraiment marqué quand j'étais petite.
Alors, c'est vrai que la musique, vous vous en servez aussi quand vous travaillez, c'est-à-dire que dans la musique, il y a un rythme et dans le geste de peindre ou de dessiner, il y a aussi un rythme. Quand on voit votre travail, justement, la première chose qui frappe, pour celui qui connaît absolument pas ce que vous faites, c'est le mouvement, la couleur, le rythme et une espèce de vitalité qu'on peut retrouver dans la musique, puisque ce sont aussi des qualités qu'on peut reconnaître à la musique.
Oui, merci.
Il n'y a pas de quoi.
Oui, j'essaye de faire ressortir le rythme dans mon travail. Qu'est-ce que c'est le rythme en peinture? On peut dire, c'est pas de moi, mais je crois que c'était assez bien dit, que c'est une pulsation, le rythme dans la peinture, c'est la pulsation des couleurs, des formes, des matières qui font surface temporelle dans l'espace du visible. Donc je trouvais que c'était assez bien dit.
C'est bien dit, mais c'est un peu... Vous nous la refaites, celle-là? Parce que faut qu'on entende tout et qu'on comprenne bien.
Le rythme en peinture, c'est la pulsation des couleurs, des formes, des matières qui font surface temporelle dans l'espace du visible.
C'est ça, qui émerge d'un seul coup. Donc, effectivement, on a déjà cette idée de quelque chose qui vient du fond de soi et qu'on fait surgir au travers de ce que vous avez dit, c'est-à-dire la matière, la couleur et le rythme. Bon, donc, je sais que pour un artiste, c'est rien de plus difficile que de parler de son travail. Généralement, ils sont assez muets. Je sais la difficulté de l'exercice, mais donc justement, là, on va en arriver un petit peu à votre travail. Pour vous, peindre, c'est quoi? C'est une forme d'écriture, de lâcher prise, de vous faire découvrir, enfin, de montrer une part finalement qu'on ne voit pas de vous quand on vous rencontre, mais qui est plus profonde.
Oui, pour moi, bah, c'est une façon d'exprimer mon ressenti, les sentiments qui me traversent, les émotions qui me traversent. Donc parfois c'est sombre, parfois c'est plus lumineux. Je suis intéressée par le large panel des émotions et effectivement dessiner, c'est pour moi c'est un peu comme écrire, c'est une façon de désigner ce qu'on veut exprimer.
Vous m'avez parlé à un moment donné, encore une fois quand on a préparé l'émission, vous m'avez parlé de l'éclair, sorte de pulsation qui vient finalement du fond de soi en passant par le cerveau et qui va jusqu'au bout du pinceau ou du crayon.
Oui, c'est vrai que j'ai remarqué que surtout quand dans mes dessins, en fait, dans mes dessins à la plume, il y a quelque chose d'assez frénétique dans le rythme d'exécution, et ça fait même un bruissement sur le papier.
Alors, quand je le dis pour les auditeurs qui ne sont pas des téléspectateurs, en me disant ça, Joy a débouché son stylo plume et fait le geste vraiment, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui permet finalement la transition entre l'intérieur et l'extérieur.
Ah oui, ça passe par le corps. Ça passe par le corps, oui.
Alors, puisque vous nous parlez du corps, moi j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans votre travail. C'est à la fois macro, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'univers, quelque chose d'absolument immense, d'inaccessible d'une certaine façon. Mais en même temps, c'est macro, c'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait presque imaginer des vaisseaux sous la peau. C'est curieux ce rapport entre l'extrêmement grand et le tout petit.
Oui, effectivement. Merci d'avoir vu ça.
C'est un peu évident hein, quand on voit votre travail. C'est quelque chose qui est vraiment frappant.
Ben oui, j'essaye d'évoquer l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et on a pris cet exemple du marbre, effectivement. Pour moi, le marbre, il y a une transparence dans le marbre, comme là, ça me fait penser à la transparence de la peau où on peut voir apparaître le sillon des vaisseaux sanguins. Et donc il y a l'idée d'évoquer l'incarnation, notre incarnation, en fait, qu'on est là, on est bien physique, quoi, on n'est pas éthéré dans ce monde, on subit l'incarnation, quoi. On a un corps, et donc c'est se rapprocher de ça, et à la fois c'est aussi faire le lien avec, pour moi le marbre, ça m'évoque aussi le cosmos, en fait, des mouvements contraires qui se croisent, voilà, et le marbre aussi, quand là on parle spécifiquement de ça, c'est une roche métamorphique. Donc en fait, elle subit la pression et la chaleur à travers le temps. Donc ça raconte aussi le temps qui passe.
Et puis ça peut ressembler à ce qu'on ressent, parce qu'on est justement des êtres de chair, mais aussi des êtres plus spirituels, si je puis dire. Enfin, moi aussi, je vais dire un gros mot, spirituel, mais ça veut dire qu'on est traversé par les émotions et que par moments, elles sont très brutales, d'autres fois beaucoup plus souples. Et ça, on le retrouve très très bien dans votre travail. Joy, on se retrouve tout à l'heure. Juste, je voudrais que vous nous présentiez le premier morceau de musique que vous nous proposez. Donc ça sera vraiment une émission découverte.
Oui, alors j'ai envie de vous faire découvrir, pour ceux qui connaissent pas, la chanson Synthesize Me de Space Lady. Elle est de 1990. Et Space Lady s'appelle Suzanne Dietrich. Elle vient de Californie. Et elle a arpenté les rues dans les années 70 avec son synthétiseur Casio MT40 dans les rues de San Francisco. Et elle fait de l'électronique pop, on va dire. Et c'est une chanson d'amour cosmique.
Eh bien écoutez, on va écouter ça. Et je vous remercie de cette découverte parce que c'est peut-être pas tous les jours qu'on a l'occasion d'écouter ce genre de musique. Merci beaucoup, à tout de suite.
Merci. Your eyes are set on stun, you are hotter than the sun. I love to see you shine, cause you really blow my mind. Your heart beats like a drum, it hammers when you come. The terms of you and me, our love will set us free. Synthesize me, hypnotize me. Energize me, synthesize me, hypnotize me, humanize me, energize me. You are hotter than the sun. I love to see you shine, cause you really blow my mind. Your heart beats like a drum, it hammers when you come. The terms of you and me, our love will set us free. Synthesize me, hypnotize me, humanize me, energize me, synthesize me, hypnotize me, humanize me, energize me. Craters on the moon, oceans of Venus in the middle of June, mirrors of Mercury and Mars, electric skies, pearls of Neptune and Jupiter's eyes. I heard the old man who plays the lyre. Amazing things make you wanna shake. A strange planet a zillion light years away. Through a black hole across the Milky Way. Synthesize me, hypnotize me, humanize me, energize me, synthesize me, hypnotize me, humanize me, energize me, don't patronize me, don't glamorize me, don't paralyze me, you can surprise me, harmonize me, mesmerize me, solarize me, synchronize me, synthesize me. Thank you.
On continue notre rencontre aujourd'hui qui, vous l'avez compris, est bien particulière. J'ai dit tout à l'heure, sans aucune misogynie, ça n'est qu'une émission de femmes. Donc il y a trois filles autour du micro ou des micros. Et puis les musiques que vous écouterez lors de cette émission sont toutes des musiques qui ont été faites et chantées par des femmes ou interprétées par des femmes. Donc avec nous aujourd'hui, Joy Anunle, qui est artiste, qui a fait un bel effort dans ce premier quart d'heure parce que parler de son œuvre, c'est pas du tout évident, surtout que Joy montre son travail que depuis très peu de temps. Et puis Fanny Bessière qui, elle, est chargée, vous allez me rectifier si je me trompe, de la communication de Solidart qui va se dérouler ce week-end. On verra après ce qui est précisément Solidart, mais vous allez pouvoir intervenir dans cette deuxième partie parce qu'avec Joy, on va aborder des sujets dans lesquels peut-être, Fanny, vous pourrez intervenir.
Avec plaisir.
Alors, est-ce que quand je dis que vous êtes chargée de communication de Solidart, ça vous va ?
Ça me va très bien, c'est parfait.
C'est ça,
oui.
Bien. Joy, je reviens vers vous parce que tout à l'heure, donc, vous nous avez parlé de votre travail, de là où il venait, si je puis dire. C'est sûrement pas évident d'exposer parce que vous avez déjà fait quelques expositions et pas tant que ça. Vous êtes plutôt une solitaire et montrer son travail, ça veut dire qu'on en est suffisamment ou qu'il est suffisamment abouti pour qu'on en soit satisfait.
Oui.
Ça vous laisse sans voix.
on n'est jamais absolument satisfait de son travail. J'espère que c'est jamais fini, qu'on a toujours des choses à dépasser. Mais à un moment donné, il faut bien le montrer, quand même. On peut reculer, mais à un moment donné, l'échéance, elle est là. Il faut montrer son travail. C'est comme ça qui est intéressant. Et oui, je pense qu'on commence à montrer ses œuvres quand on a suffisamment reculé et quand on a une série d'œuvres qui commence à faire du sens pour soi-même, déjà.
Est-ce que quand on signe une œuvre ou un travail, on met un point final finalement à l'histoire de cette œuvre ? Enfin, un point final, je parle au niveau de l'atelier.
À un moment, il faut. Quoique ça arrive des fois de retoucher une toile des années plus tard, hein, c'est beaucoup vu. Mais oui, à un moment donné, il faut mettre un point final et avancer, accepter qu'on ne puisse pas tout dire en une seule œuvre.
J'ai vu dans cette exposition que vous aviez intitulé vos toiles, vous leur avez donné un titre. Le choix du titre, parce que une œuvre, c'est quand même la rencontre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est accessible à tout le monde. Je veux dire, tout travail de recherche artistique est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir forcément une culture artistique. Il faut qu'on soit touché. Il y a une phrase il y a deux choses qu'on dit souvent. C'est un univers. Ou alors ça me parle ou ça me parle pas. Donc il faut rencontrer l'autre de façon un peu intime. Et quand vous mettez un titre, vous les choisissez comment ? Parce que le titre peut avoir une influence sur ce que l'autre va ressentir.
Oui. Parfois ça me vient dès que l'œuvre est achevée. Mais parfois j'attends d'avoir fini ma série pour les mettre toutes côte à côte, en fait, toutes mes œuvres, les confronter et puis trouver les titres en même temps. Mais j'essaye de pas trop influencer le regardeur pour laisser libre cours aux interprétations.
Alors j'avais vu par exemple une toile qui s'appelle Douceur.
Oui.
Et vous aviez dit, je vous parliais à quelqu'un lors du vernissage, et vous disiez, mais ce titre-là, il était évident pour moi.
Qui a dit ça ?
Vous.
Ah oui. Oui, il était évident. Oui, il était évident parce que c'était c'est la douceur qui ressortait le plus de par rapport à toutes les autres œuvres présentées. Et il y avait un lien aussi pour moi à la féminité et à l'intimité dans cette œuvre.
Alors, je rappelle que vous exposez donc en ce moment, c'est jusqu'au 30 septembre, c'est au Tic Tac, rue des Multipliants, à Montpellier, dans les Cussons, petit bar sympathique. Et je propose d'ailleurs à tous ceux qui sont là d'y aller boire un verre et de voir le travail de Joy, donc jusqu'au 30 septembre.
Jusqu'au 10 octobre.
Jusqu'au 10 octobre,
et
pardon.
Il risque d'y avoir des prolongations, mais pour l'instant, c'est jusqu'au 10 octobre.
Ah, alors, j'ai pas la bonne date. Je suis désolée, excusez-moi.
Pas de souci.
Donc, jusqu'au 10 octobre, on peut voir votre travail. Et c'est très difficile d'en parler, effectivement, même pour moi. Il faut vraiment aller le voir. C'est un travail, effectivement, qui est traversé par beaucoup de choses. Reste que, quand on veut montrer son travail, il faut pouvoir le promouvoir, déjà. Et trouver un lieu. Alors, à Montpellier, c'est très difficile. J'ai l'impression que c'est très difficile pour de jeunes artistes de trouver des lieux pour exposer. Il y a beaucoup de lieux qui sont des lieux, j'allais dire, institutionnels. Et puis après, il y a quelques galeries, mais les galeries ont toutes leurs artistes et n'en prennent pas toujours beaucoup plus. Et puis ensuite, il faut trouver un endroit, bar, restaurant. Comment vous y êtes prise ?
Moi, j'avais besoin de trouver aussi un endroit un peu confidentiel dans lequel je me sente bien pour cette première exposition. Je me sentais pas. J'appréhendais un peu le fait d'aller voir les galeries. Et c'est vrai que trouver un petit bar sympa dans lequel plusieurs artistes que je connais ont déjà exposé ou plusieurs artistes se croisent, que ce soit des artistes d'art plastique ou de musique, ça me plaisait bien en fait pour une première exposition d'avoir ce petit côté un peu confidentiel. Ça me mettait un peu à l'aise par rapport à une galerie sans sacro-sainte avec des murs tout blancs.
Oui, on a peur de la page blanche d'une certaine façon. Cela dit, c'est vrai que c'est très intime, que vous avez passé une première étape en passant le cap de vous montrer au travers de ses œuvres, mais il faut vendre, c'est pas le tout. Alors déjà, vendre, c'est encore une autre étape pour un artiste, il faut faire un prix, donner un prix à ses œuvres. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut traduire en argent, en euros, hein, si on veut être très clair, quelque chose qui, quand l'artiste est sincère, vient du fond de lui.
Ah oui, c'est pas un exercice évident non plus. pour rassurer les auditeurs, hein, j'ai des prix tout à fait abordables.
C'est vrai.
Et c'est, je pense, une bonne affaire. Il faut en profiter tant que c'est à ce prix-là.
Ah ben là, on sent la fille de commerçant. C'est une bonne affaire à y aller. Il faut y aller. Allez-y. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits formats qui sont tous alentours de 50, 80, 100 euros, ce qui sont des prix plus que raisonnables.
Oui, j'ai des tout petits formats de 20 par 20 que j'ai mis à 50 euros. Voilà. Et mes plus grandes toiles présentées pour cette exposition sont aux alentours de 800 euros. Donc, on est vraiment sur des prix très raisonnables. Ça vaut le coup.
Bon. Alors ça nous permet aussi de parler de la cote de l'artiste, de son réseau, de la façon dont il se fait connaître, etc. Et donc là, c'est peut-être là que ça pêche un peu chez vous, Joy. C'est difficile parce que vous êtes quelqu'un de réservé, d'assez timide, d'assez intériorisé. Et quand il faut aller vers les autres, alors là, pour le coup, pour parler d'argent et d'exposition, c'est plus compliqué.
Absolument.
Alors là, je me tourne vers Fanny, parce que vous êtes attachée de presse et vous avez une petite expérience de la façon dont on peut accrocher l'attention des gens qui effectivement après vous ouvriront un peu, entr'ouvriront les portes de la presse.
Oui, alors je pense qu'effectivement pour un artiste, ce n'est vraiment pas simple au départ d'exposer, de montrer son travail. Je pense que c'est vraiment une démarche. Enfin voilà, il faut sortir du bois. C'est pas facile.
C'est exactement ce que Joy n'aime pas.
Donc effectivement, pour beaucoup d'artistes, ça peut commencer sur des. Mais je pense que c'est partout. C'est pas qu'à Montpellier, c'est oui, un peu partout. Oui. On commence à exposer, peut-être dans une cave à vin, un bar. On peut être repéré aussi de cette manière-là. Ça peut être intéressant. Effectivement, après, quand une galerie repère notre travail, on est propulsé dans une autre sphère. Les prix ne sont déjà plus les mêmes. J'ai vu beaucoup de jeunes artistes montpelliérains débuter dans leur atelier et évoluer, être repérés, passer en galerie. Le travail était quasiment le même, en fait. Et puis, les prix n'étaient tout de suite plus les mêmes, là, pour le coup. C'est une difficulté, je pense, auxquelles font face tous les artistes. Comment se faire connaître? J'ai remarqué que de plus en plus font des choses sur les réseaux sociaux. Sur Solidart, nous avons beaucoup d'artistes qui se filment en train de créer, en train de peindre. Enfin, aujourd'hui, ça passe énormément par ça. Nous avons une artiste qui s'appelle Sandro, qui est marseillaise et qui est très connue, notamment en fait par les réseaux sociaux. Des fois, ça nécessite pas beaucoup de moyens. En fait, elle a montré son travail. Bon, j'imagine peut-être dans des lieux, mais finalement, avec la puissance des réseaux.
Elle expose actuellement à la parcelle 473 à Malbosque.
Tout à fait, avec Elisabeth Dénès sur une exposition qui s'appelle Alerte. Et elle sera aussi, donc ces deux artistes-là seront donc sur Solidart. Mais vraiment, Sandro, voilà, c'est une jeune artiste, une jeune femme qui a clairement, elle s'est fait connaître surtout voilà, sur le web, sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup d'interactions avec un public, des spectateurs, et je trouve que de plus en plus, nous on le voit dans la communication qu'on fait autour du salon, beaucoup de plutôt de jeunes artistes, mais peut-être un peu de moins jeunes aussi, se filment beaucoup, font beaucoup de vidéos, montrent leur travail, montrent tout ce qu'ils peuvent faire, et c'est aussi comme ça qu'ils peuvent être repérés.
Voilà. Vous utilisez les réseaux sociaux, Joy?
Ah oui, tout à fait. Moi, j'utilise beaucoup Instagram pour montrer l'évolution de mes travaux. Et Facebook un petit peu aussi pour le relayer.
Oui, donc, et vous avez des retours là-dessus?
Oui, j'ai des followers. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, on peut avoir... Il y a des gens des États-Unis, du monde entier qui peuvent nous suivre et il y a des liens qui s'établissent assez forts.
Et vous pouvez correspondre, communiquer donc avec des gens qui s'intéressent à votre travail. Vous avez déjà eu des relations, des contacts comme ça?
Ah oui, je reçois des messages beaucoup pour me parler de mon travail, pour demander les prix, pour voilà, donc c'est une porte, c'est une fenêtre ouverte.
Ça, c'est quand même un avantage par rapport à il y a quelques années, mais déjà quelques années, hein, parce que c'est vrai que les réseaux, ça fait un moment que ça existe, mais c'est vrai que c'est quand même une nouveauté, que ça permet de s'ouvrir, enfin, sur le monde, en fait.
Complètement, c'est absolument extraordinaire, en fait. Les artistes peuvent être n'importe où, effectivement, et on peut acheter des œuvres. Moi-même, j'achète régulièrement des œuvres parce que je suis un artiste sur notamment Instagram, et des fois, il va y avoir des prints, des sérigraphies, des choses qui vont être mises en vente. Et j'ai déjà acheté grâce, en fait, aux réseaux sociaux. C'est comme ça que je suis aussi l'évolution de certains artistes. Pour moi, c'est un outil aujourd'hui très intéressant, en tout cas.
Alors, pour en revenir aux jeunes artistes et pour faire le lien avec Solidart, est-ce que vous avez des jeunes artistes à Solidart?
Oui, nous avons de jeunes artistes. On a vraiment de tout. On a des artistes jeunes, moins jeunes, émergents, plus connus. Nous avons Jean-Paul Bocage, Gérard Bru, qui sont très connus ici. Nous avons Zest, Franck Noto, qui est le parrain de cette sixième édition.
On va consacrer un temps à Solidart.
C'est un artiste montpelliérain, ouais, très connu. Et puis, à côté de ça, on a des artistes un peu moins connus. Je pense notamment à Axel Todad, quoique encore elle a une petite bonne notoriété quand même sur les réseaux sociaux. Prouz, ce sont des artistes qui sont dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons un jeune artiste qui s'appelle Fragment. C'est un montpelliérain. Il fait pas mal de street art, mais pas que. Et c'est très étonnant parce que lui, je l'ai connu, j'étais responsable de la communication de la foire Art Montpellier, la foire d'art contemporain qui a lieu à l'Arena avant et au Parc Expo maintenant. Et en fait, ce jeune homme se présente à moi il y a quelques années en me montrant son travail. Il me montre des croquis. Enfin, bon, moi, j'étais attachée de presse, chargée de com. Je ne suis pas spécialiste du tout. Mais il vient, il me montre. Et je lui donne quelques conseils, quelques ressentis en tant que potentiel...
Enfin, le regardeur.
Voilà, le regardeur. Et il insiste et il continue, il revient me voir l'année d'après, il me montre l'évolution de son travail et ainsi de suite. Il a jamais rien lâché, Alexandre. Et c'est absolument incroyable. Il m'a offert d'ailleurs un tote bag, je lui dis il y a pas longtemps, mais je l'ai encore d'il y a quelques années. Et il a été repéré, il a rien lâché. Il a essayé de s'ouvrir en réseau, de rencontrer des gens, de montrer son travail. Et il partait vraiment de loin. Et au fur et à mesure, les portes se sont ouvertes. Il a fait une très belle fresque à Parcelle 473, le musée d'art urbain et contemporain qui a donc dans le quartier de Malbosque. Et là, il expose pour la première fois sur un salon. Il va faire un atelier de linogravure. Mais c'est un petit jeune qui est parti il y a quelques années de me montrer des croquis dans un cahier. Et là aujourd'hui, il a des commandes.
Hein, il faut que vous accrochiez. Je reviens sur Parcelle 473. Alors on a cité déjà deux fois cet espace. Je peux même pas parler de galerie. Et la semaine prochaine, ce sont nos invités. Ils nous parleront effectivement de ces deux artistes femmes qui exposent en ce moment chez eux. Pour en terminer avec ce petit moment de parole, on va écouter évidemment de la musique. Et Joy donc a fait le choix des musiques qui sont diffusées aujourd'hui dans cette émission. Donc, dites-nous ce dont nous parlons là.
Oui, j'ai essayé de sélectionner des musiques par rapport à ce que j'écoute quand je dessine ou quand je peins. Et j'ai essayé de choisir des choses actuelles aussi. Donc là, on va écouter une chanson d'une artiste qui s'appelle Anna Doll. La chanson s'appelle Felicita Lale et ça vient d'un album qui est sorti en 2022. Donc l'artiste s'appelle Gözen Atilla et elle est photographe et musicienne turque. Elle réside à Berlin et elle fait du synthé pop psychédélique.
Oula, on va bien voir ce que ça donne. Et pour en terminer, je voudrais citer Zola, qui un jour écrivait à un ami, il était en début de carrière, et il disait « En ce moment, ce dont j'ai besoin, ce sont deux choses, de la publicité et de l'argent. » Je croise les doigts, oui, Joy, pour que ça fonctionne comme ça pour vous. À tout de suite.
Yacht, conch, yacht, conch, hip-hop, village, yacht, 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 yacht
Nous revoilà toutes les trois. On va reprendre la parole après cet extrait que vous aviez choisi de musique, Joy. Joy, donc, est artiste peintre. Elle expose. J'ai un petit peu exposé, mais là, c'est à Montpellier. C'est au Tic Tac, ce petit bar, oui. Rue des Multipliants.
11 rue des Multipliants.
11 rue des Multipliants. Mais la rue n'est pas large et n'est pas très longue non plus. Donc, non. On doit trouver. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce que Joy se montre, on va dire, vraiment. Presque pour la première fois.
Et pour elle, oui. Oui.
Et pour elle, c'est quand même un passage, hein, parce que c'était quand même beaucoup dans votre atelier. Là, maintenant, vous allez aller vers l'extérieur petit à petit. Et on parle aussi avec Fanny Bessière, qui elle est attachée de presse de Solidart. Et on va parler plus longuement de Solidart, parce que Solidart, c'est ce week-end. C'est vraiment le moment où il faut en parler. Donc, racontez-nous un petit peu, d'abord, où ça se passe et à quel endroit, et ensuite, ce que c'est que Solidart.
Alors, le Salon Solidart a lieu ce week-end, donc vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 septembre, au Zénith Sud, à Montpellier. Solidart, c'est le salon d'art contemporain du Secours Populaire. Le principe de Solidart, en fait, c'est un salon qui fait vraiment rimer solidarité artistique. Des artistes exposent et vendent leurs œuvres dans une démarche solidaire. L'idée, c'est qu'en fait, nous levons des fonds lors de ce salon.
C'est-à-dire que vous vendez des œuvres.
Les artistes vendent des œuvres, oui. et invitent l'acquéreur à faire un don auprès du Secours Populaire. Et ça fonctionne très bien. Ce qui nous a permis d'ailleurs de lever l'année dernière 50 000 euros en faveur du Secours Populaire de l'Hérault. Oui, c'est encore plus important quand on voit les éditions à Paris et à Lille.
De Solidart, parce qu'il y a déjà, oui. il y a Paris et Lille sur un même principe, ça s'appelle aussi Solidart.
Exactement, en fait, Solidart est né à Lille en 2015 et a essaimé un peu partout. À Montpellier, il y a eu une édition à Marseille et maintenant à Paris, ça fait déjà deux éditions qui ont lieu à Paris.
Voilà. D'accord. Donc le principe, des artistes exposent, ils vendent et une part de cet argent va vers le Secours Populaire.
Voilà, exactement, c'est ça.
Donc 50 000 euros, c'est beaucoup, beaucoup, moi, je trouve.
50 000 euros, c'est beaucoup.
Parce que c'est en un week-end. Hein.
Exactement, en deux jours et demi, puisqu'on ouvre le vendredi en début d'après-midi. Effectivement, c'est une somme importante qui est versée, en tout cas à Montpellier, pour le Secours Populaire de l'Hérault. C'est vraiment des fédérations, en fait, sur la France entière. Donc là, c'est pour la Fédération de l'Hérault. Et ça permet, effectivement, de contribuer à des actions, notamment en faveur des jeunes, parfois pour aider des familles à partir en vacances ou permettre à des jeunes d'accéder à la culture, à des pratiques sportive, enfin voilà, pour accompagner le Secours Populaire dans ses actions.
Pour les ouvrir vers des activités qu'ils ne pratiqueraient pas si cet argent n'arrivait pas de temps en temps.
Tout à fait.
Pour faciliter tout cela. Y a une histoire à Solidart, enfin, la fondation, l'idée est venue comment, vous le savez?
Oui, alors on me l'a raconté il y a peu de temps d'ailleurs. En fait, le salon Solidart est né un peu par hasard. Il est né à Lille en 2015. En fait, Florian Neveu, le directeur de salon Solidart, est embauché au Secours Populaire du Nord, à Lille, et on lui demande de préparer des festivités pour les 70 ans du Secours Populaire de l'association. Donc il réfléchit et puis il a une rencontre avec un artiste et il se dit bah tiens, pour les 70 ans du Secours Populaire, on va réunir 70 artistes notamment lillois, enfin autour de ça. Avec ce projet-là, ils vont voir Martine Aubry. Martine Aubry adhère complètement.
Qui, je le rappelle, est maire de Lille.
Tout à fait,
encore.
Exactement. Donc ils vont voir Martine Aubry, elle adhère complètement au projet, elle met à disposition une salle du Palais Rameau. Et puis les candidatures sont ouvertes parce que les artistes en fait candidatent et sont après sélectionnés par un jury.
Voilà, on va y revenir tout à l'heure pour Montpellier.
Et en fait, il se trouve que, ben, au lieu d'avoir 70 artistes, finalement, il y a 100 artistes qui sont exposés. C'est un carton plein. C'est vraiment, les gens sont en rendez-vous, les visiteurs, les artistes. Les fonds levés dépassent largement ce qui était prévu, espéré.
Ou envisageable.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, ben, ce qui devait être juste un événement pour fêter les 70 ans du Secours Populaire, ben, devient un salon un peu plus périn. Et ce salon arrive à Montpellier puisque la maison d'édition Anagraphis, qui est basée sur Montpellier, enfin vraiment Saint-Georges-d'Orque, expose sur Lille. Et en échangeant avec Florian, lui suggère en fait de monter ce concept, de l'amener aussi à Montpellier. Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est rapidement fait. Ils sont allés voir pareil la mairie. Donc au début, le Solidart à Montpellier, donc là on est sur la 6e édition, a eu lieu dans la salle Pitot. Ensuite, le salon a un peu évolué, passé sur la salle Pagési. Et ensuite, le salon devait, c'est pour la petite histoire, être dans la nouvelle mairie. Sauf que cette salle a été réquisitionnée pour être centre de vaccination pour le Covid. Donc en fait, Solidart s'est retrouvé sans salle.
Alors je suis allée à Solidart sans le savoir, mais c'était pour la vaccination.
Mais nous n'étions pas là. Du coup, la ville nous a proposé la mise à disposition du Zénith, la fosse en fait, ouais. Qui se prête très bien à un plateau d'exposition de salon. Et nous y sommes depuis 2 ans ou 3 ans. Je ne sais plus. Enfin, 2 ans, c'est une certitude. Et on y est très bien. Ce site permet vraiment au salon de grandir et d'évoluer. Et voilà, on est très bien là, à cet endroit-là.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de 70 artistes qui deviennent 100 à Lille. Je suppose qu'il y a quand même une sélection. Vous pouvez pas prendre tous les artistes qui arrivent, puisque je le disais tout à l'heure, il y a une grosse difficulté, enfin, à Montpellier, mais partout, pour ces jeunes artistes, je parle des jeunes, de se faire connaître et de trouver des lieux. J'imagine que c'est une opportunité. Donc, il doit y avoir du monde qui se présente.
Il y a énormément d'artistes qui ont ce besoin d'exposer. On l'a vu cette année, j'ai traité les demandes, en tout cas les arrivées de candidatures. Je pense que j'ai dû en avoir plus de 200. C'était irréel. Et au final, le jury se positionne sur 80-90 artistes.
Et ils exposent chacun combien d'œuvres?
Ça dépend. En fait, ils peuvent exposer autant d'œuvres qu'ils veulent. Ils ont un stand qui leur est dédié. Certains vont mettre 3 grands formats, d'autres plein de petits. Donc,
d'accord.
En fait,
ça c'est pas défini, quoi.
Non, c'est pas défini. Chacun expose en fait ce qui, enfin voilà, fait une mise en scène sur son stand qui lui paraît intéressante.
Alors, chaque année, un jury et un parrain. On part du jury et après on va parler du parrain pour l'édition de Solidart ce week-end à Montpellier au Zénith Sud.
Oui. Alors, le jury, effectivement, il est composé notamment de Thierry Hank, de la maison Anagraphis, de spécialistes du secteur de la culture, Florian Neveu également, nous avons Anne Devailly qui est la rédactrice en chef de Artistes d'Occitanie. Nous avons plusieurs figures importantes.
Le directeur du MOCO.
Et effectivement, nous étions ravis d'avoir cette année Nouma Mboursin, qui était le président de ce jury. Donc en fait, le jury reçoit les dossiers que je leur constitue et puis statue sur les artistes qui sont retenus pour l'édition.
Donc ça veut dire que toute candidature est libre, après ça marche ou ça marche pas. L'année prochaine, Joy, c'est une opportunité, non?
Ah oui, je vais sûrement candidater.
Bien, alors là, il y a des délais, je suppose, parce qu'on choisit pas la veille de l'ouverture du salon. Il faut candidater quand, comment, où?
Alors nous lançons un appel à candidature, en général 5 ou 6 mois avant l'événement. Alors les artistes le savent, on l'affiche sur notre site internet. C'est la même chose pour les autres salons, parce que on a des artistes de Lille qui postulent aussi à Montpellier, à Paris. Il commence à y avoir des passerelles et des synergies entre les salons. C'est assez intéressant d'ailleurs de présenter aussi à Montpellier de temps en temps des artistes lillois ou parisiens, même si la majeure partie des artistes sont quand même, j'allais dire montpelliérains, en tout cas héraultais, ou en tout cas d'Occitanie. C'est vraiment une grosse représentation aussi sur le territoire, et c'est ce qu'on veut aussi. Et on lance aussi, donc quand on lance ces appels à candidature, les médias en font le relais en général. Ça peut être Midi, La Gazette, Artistes d'Occitanie. Artistes d'Occitanie publie énormément d'appels à candidature, d'ailleurs, de nombreuses structures. C'est un super site média pour les artistes, d'ailleurs, pour se tenir au courant, même des expos. Et puis, voilà, peut leur servir d'outil pour repérer à quel qui les appels à candidature passent beaucoup aussi. D'accord. Par là.
Et dans ce salon, est-ce qu'il y a des galeristes qui viennent et qui repèrent des choses, des gens?
Alors, en tant que visiteur, c'est possible.
Ils ne se font pas connaître.
Non, en tout cas non.
C'est comme les juges du Michelin.
il y a des collectionneurs, ça c'est une certitude. Nous avons cette année 2 galeries quand même qui exposent sur l'événement. Nous avons la galerie Brugier-Rigal, qui est une galerie parisienne, mais qui nous accompagne depuis toujours, en fait, qui est vraiment très orientée.
En lien encore avec la parcelle 473.
En lien avec la parcelle 473, c'est ça, la boucle est bouclée. Et nous avons la galerie Montpellier-Rennes Hat Down, qui va justement présenter le parrain de l'édition Franck Noto. Voilà.
Alors, parlons du parrain.
Oui.
Alors, avant que vous en parliez, je vais dire un truc qui va plaire à Joy. Franck Nothomb définit son travail par le temps, inexorable paramètre, témoin de l'évolution, l'énergie qu'on trouve dans ce que vous faites, rythmée par ses variations, le geste. Voilà, oui, c'est une des définitions qu'on trouve quand on cherche quelques informations sur Franck Nothomb.
C'est ça, la couleur, le geste, l'énergie. C'est un artiste qui est très facilement, enfin maintenant, identifié. Nous sommes ravis qu'il ait accepté d'être de parrainer l'édition. Nous avons eu déjà Hervé Di Rosa, Mist, plutôt pour les du cru. Nous avons eu Nasty, qui est donc un graffeur parisien l'année dernière. Et cette année, donc du coup, on revient à Montpellierin, Franck Nothomb, et on est vraiment ravis qu'il nous accompagne.
Très bien. Est-ce que cette édition se présente bien? Parce que là, vous êtes à J-2.
C'est ça, J-2.
Enfin, vous étiez, au moment où on enregistre cette émission, parce que nous ne sommes pas en direct, disons-le. Nous sommes à J-2 et c'est ce week-end là que les choses se passent.
Tout à fait. L'édition se passe très, très bien. Cette année, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Moi, je l'ai vu dans la préparation de l'événement. Déjà, il y a eu beaucoup de médias, de partenaires, de mécènes qui nous ont accompagnés. L'événement ne serait rien sans eux. On a vraiment besoin d'être accompagnés. Mais les gens adhèrent très facilement en fait à ce concept-là. Les artistes sont très motivés à la fois pour présenter leur travail, mais aussi pour agir dans une démarche solidaire. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, les indicateurs sont plutôt verts. Vraiment, on attend à peu près, on espère, 5000 personnes. On en avait un peu plus de 4000 l'année dernière. C'est vraiment bien. Et surtout, voilà, qu'il y ait beaucoup de ventes, parce que plus il y a de ventes, plus on lève des fonds pour le Secours Populaire.
Effectivement, c'est une bonne solution pour amener un peu d'argent à cette association. L'émission est pratiquement terminée, donc je vais vous remercier toutes les deux d'être venues, à la fois Joy, donc qui a accepté, même si c'était très difficile en général et pour elle en particulier de parler de son travail.
C'est un très bon exercice.
On repère l'exposition qui se déroule au Tic Tac, 11 rue des Multipliants, dans l'Écusson à Montpellier, qui dure jusqu'au 15 octobre.
Là, cette 10.
Je ne veux... mais 10 octobre.
Mais peut-être qu'il y aura des prolongations.
Alors, on va dire jusqu'au 15 au moins.
Allez.
Allez, on prend le pari. On prend le pari aussi que l'année prochaine, vous ferez une candidature pour Solidart.
Oui, j'essaierai, en tout cas, c'est sûr.
Ah, ne me dites pas j'essaierai. Non. Je ferai une candidature.
Une candidature.
Voilà, on est d'accord, hein, Fanny.
Tout à fait.
Voilà. D'autant plus que Fanny, vous avez vu son travail, il est tout à fait
complètement
présentable donc à Solidart. Fanny, donc on rappelle, c'est ce week-end, vous attendez 5000 personnes, l'argent de cette opération est versé au Secours Populaire pour ouvrir les enfants qui n'ont pas forcément les moyens vers des activités qu'ils ne connaissent pas. Et je vous remercie à toutes les deux d'être venues. Je remercie Yann qui était à la technique. Et avant qu'il ne coupe le micro, je vais vous donner quelques éléments de visite, d'exposition ou de galerie qui se déroulent encore. Donc vous avez Néaurore au Moco, Germaine Richier qui était sculptrice montpelliéraine, qui est au musée Fabre encore pour quelques temps. D'ailleurs, nous recevrons la conservatrice de la section art contemporain du musée Fabre qui nous parlera de Germaine Richier dans une des prochaines éditions. Katinka Bock au Crac à 7. Alors ça mérite vraiment d'être vu. C'est une femme qui fait un travail absolument remarquable, qui est une sculptrice. Oui, on peut dire sculptrice. À la parcelle 473, on en a parlé beaucoup, 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 mais c'est bien parce que c'est la semaine prochaine, on les reçoit et puis ils seront pratiquement au bout de leurs expositions du moment, qui sont donc le Sandro, qui est peintre animalier, et Elisabeth Guénès, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, Guénès. Elle fait des sculptures, j'allais dire, c'est pas des sculptures, c'est des décors plus que réalistes, qui a beaucoup travaillé pour l'archéologie, mais qui travaille aussi sur des sujets contemporains, et c'est très
impressionnant. À la fois paléo-artiste, a reconstitué effectivement des hommes de Néandertal, hommes ou femmes, et des sculptures hyper réalistes. Alors, on en voit d'ailleurs de plus en plus dans de nombreuses expositions.
À partir de l'hyper-réalisme, mais adapté et traduisant quelque chose sur les sujets que ce peintre choisit, Frédéric Blémont, qui expose actuellement une exposition qui s'appelle « Nous, vous, ils », c'est à la Galerie L'Ancien Courrier. Stéphane Pancréac, qui lui est à la galerie Samira Cambier, encore pour quelques temps. Fiorenza Menini, qui est au FRAC à Montpellier et au Chiasma. Et puis, à Castelnau-de-Lez. Et puis, Anthony Campana. Alors là, c'est les derniers jours. Ce sont des photographies avec des images de ce qu'on appelait la boîte rouge, qui a été découverte après sa mort et qui sont des photographies méconnues de la guerre d'Espagne. C'est au pavillon populaire. Encore deux petits jours. Après, ça se terminera. Alors, profitez de ce week-end, déjà pour aller
à Solidart.
À Solidart, pour aller voir l'exposition de Joy. Et puis, éventuellement, Anthony Campana, c'est très intéressant. C'est vraiment des témoignages historiques, mais aussi artistiques exceptionnels. Merci encore une fois à Yann. Merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. On vous souhaite à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, un très bon week-end. Le dernier morceau de musique.
Oui, alors on va écouter un morceau de Valentina Goncharova, Passageway to Eternity. C'est issu des recordings, home recordings de 87 à 91 et qui est sorti en 2020. Donc c'est de l'ambiante, c'est à la base une violoniste qui est une expérimentaliste New Age, une artiste ukrainienne née en 1953. Et donc c'est de la musique méditative que j'écoute pour peindre.
Merci à toutes les deux.
Merci.
Bon week-end. Bon courage dans ce que vous entreprenez l'une
et l'autre.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir des filles qui en veulent. Merci, au revoir.